Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Voici ces paroles de l'Évangile qui plaisent bien d'ailleurs aux protestants parce qu'on y trouve là une sorte d'image de rigueur, de droiture, d'honnêteté, faisant croire qu'il n'est pas la peine d'avoir à jurer dans certains contextes pour dire ce qui est vrai. Quand on dit une chose, c'est vrai et puis c'est tout. Cela dit, la parole de l'Évangile n'est pas exactement celle-là. Ce que dit l'Évangile, c'est que votre réponse soit oui, oui ou non, non. Tout ce que l'on ajoute vient du malin, tout ce que l'on ajoute dans le genre serment. En effet, ces propos du Christ visaient en particulier à critiquer ceux qui faisaient des vœux et des serments. En effet, il y avait dans l'Ancien Testament cette idée d'un certain formalisme qui fait que, en fait, on peut s'accommoder avec la vérité et le mensonge, mais quand on dit « ça, je le jure sur le ciel, sur Dieu, sur la Torah ou je ne sais quoi », là, il faut que ce soit vrai. Et le Christ lutte contre cela parce que je pense effectivement que l'important n'est pas une question de, je dirais, de formalisme. Il n'y a pas des cas formels où l'on doit dire la vérité et d'autres où l'on pourrait mentir. Il faut que la vie soit cohérente et où on dit la vérité toujours, où on ne la dit jamais. Et cette histoire de formalisme qui ferait que l'on peut mentir sauf si l'on le jure fait penser à ces histoires un peu infantiles de cours d'école, d'enfants qui jurent. Alors si on jure, là on est sûr que c'est vrai, mais si on croise les doigts en jurant, alors ça annule le serment et on peut mentir. Ou alors ça fait penser aussi à cette histoire d'une vieille bonne qui refusait de mentir quand ses patrons lui disaient de dire aux visiteurs importuns qu'ils n'étaient pas là, alors qu'ils étaient présents. Et finalement la bonne accepte de dire « Monsieur n'est pas là », mais en mettant son doigt dans sa manche, en disant « Monsieur n'est pas là ». Et comme ça, oui, il n'est pas dans la manche, donc elle ne mentait pas. Et les visiteurs comprenaient que Monsieur n'était pas là et donc il devait s'en aller. Eh bien, ce genre de demi-mensonge est évidemment intolérable pour l'Évangile, parce que ce qui compte, c'est effectivement de dire les choses quand on a à les dire, et ces histoires de serments ne sont que des façons de mieux tromper les gens. Et je crois que l'Évangile a cela de vrai, qui veut que la vie ne soit pas, si vous voulez, faite de moments sacrés où l'on a des devoirs et d'autres moments qui seraient moins sacrés où on n'en aurait pas. Mais la réforme a d'ailleurs, je crois, embrayé dans ce sens en disant « il faut que la vie tout entière soit homogène ». Donc soit vous dites tout le temps la vérité, soit vous mentez tout le temps. Mais quand vous dites la vérité, vous la dites. Et donc un chrétien, quand il dit « oui », eh bien il peut jurer sur la Torah, sur la Bible, sur Dieu, sur la tête de sa mère ou qui vous voulez. Quand il dit une chose vraie, elle est vraie, et il n'a pas besoin de jurer sur quoi que ce soit. Parce que si on croit avoir besoin de jurer, c'est que l'on suppose que le reste du temps, on puisse mentir. Or, il n'y a pas un moment où l'on peut mentir, de même qu'il n'y a pas, je dirais, pour le Christ ou pour nous chrétiens, protestants en particulier, il n'y a pas un moment où l'on doit être bon avec les gens et un moment où on peut les envoyer balader. Il n'y a pas un moment où on peut se goinfrer et un moment où on devrait faire carême. Il n'y a pas un moment où on doit penser aux pauvres et un moment où on ne pense qu'à soi. C'est une sorte de logique globale d'existence qui veut qu'on a une parole vraie et puis c'est tout. C'est assez curieux d'ailleurs que le pays où l'on fasse jurer sur la Bible soit précisément l'Amérique, où on fait jurer sur la Bible, alors que c'est justement un pays protestant. Et cela, je l'explique assez mal. C'est vrai qu'aux États-Unis, on fait jurer de dire la vérité, toute la vérité sur la Bible, et le fait de trahir ce serment est un des péchés, une des erreurs les plus graves qui peut aller jusqu'à faire destituer éventuellement un président de la République. C'est assez bizarre. Mais je crois qu'en fait, ce passage de la Bible donc vise à enlever cette distinction entre différentes situations où l'on pourrait dire ou ne pas dire la vérité, mais surtout vise à aller contre la superstition, des vœux que l'on fait ou que certains ont fait, en disant par exemple, si je réchappe de telle situation, alors je promets de ne plus me couper les cheveux, ou alors si j'en réchappe, je promets de ne plus boire, ou je promets d'être gentil auparavant, ou de donner aux pauvres, ou je ne sais quoi. Ces vœux sont aussi des choses qui ne sont pas bonnes, je dirais. Et en particulier, le Christ s'est souvent opposé à ce genre de choses. On le voit aussi dans, probablement dans un autre événement un peu curieux de la vie du Christ, qui est qu'il y avait dans l'Ancien Testament des enfants qui étaient consacrés à l'Éternel dès le sein de leur mère. C'est-à-dire que la mère consacrait l'enfant à Dieu avant même qu'il soit né, et ces enfants étaient appelés des nazirs. Et on pense que Jésus-Christ a pu être un de ces nazirs, justement, parce qu'il a été consacré à Dieu dès le sein de sa mère, et ce pourrait être l'origine de cette légende de la conception virginale, si vous voulez, de Jésus consacré à Dieu avant même sa naissance. Mais ce qui ne va pas, c'est que si Jésus était un nazir, ce qui est à peu près probable, et ce qui pourrait être l'explication aussi de ce nom qui lui est donné, Jésus le Nazoréen, parce que dans la Bible, on dit Jésus le Nazoréen et pas du tout le Nazarétien. Donc Jésus le Nazoréen, ça ne veut pas dire Jésus de Nazareth. Il semblerait que cela pourrait être justement Jésus le Nazir. Donc Jésus est bien consacré par un vœu dès avant même sa naissance, mais voilà que Jésus va transgresser ce vœu, puisque Jésus, contrairement à ce que devaient faire les nazirs, boira du vin. Or, les nazirs ne devaient jamais se couper les cheveux, comme Samson, et ne devaient pas boire de boisson fermentée. Et donc, finalement, Jésus a tous les signes du nazir, mais sa vie elle-même est une transgression au vœu du naziréat. Et quand on y réfléchit, on voit que toutes les paroles du Christ, ou un grand nombre d'événements concernant la vie du Christ, montrent justement que Jésus s'oppose au formalisme, s'oppose à l'idée qu'il y ait des moments particuliers où l'on doit agir de telle ou telle manière. Jésus va transgresser le sabbat et il va dire ce qui compte, ce n'est pas d'être fidèle à une parole, fût-elle divine, parole de Dieu, commandement divin, exigence de la loi de Dieu donnée sur le mont Sinaï de respecter le sabbat. L'important, là, ce n'est pas de respecter cette parole de Dieu, mais l'important, c'est d'aimer son frère. Et si je vois quelqu'un qui est malade et qui souffre, et que je peux l'aider, que je peux le guérir, eh bien, je le guérirai, même si je dois transgresser la parole de Dieu. Et le Christ va donc sans arrêt transgresser ces formalismes de la loi et de l'obéissance à une sorte de règle et de l'obéissance à des vœux qui fait que quand on accepte d'être juif, on accepte d'obéir à la loi et à toute la loi. Et donc il faut transgresser. Et voilà qui est curieux, tiens. D'ailleurs, je suis parti de la rigueur protestante absolue dans le fait de dire la vérité, de que votre oui soit oui, de ne jamais mentir. Et voilà que finalement je me trouve à faire l'apologie du mensonge possible pour la bonne cause. Voilà un curieux cheminement. Et comment ai-je pu en arriver là sans m'en rendre compte? Eh bien, cela montre, je pense, que les choses sont en fait complexes. Et ce paradoxe, il se trouve même à l'intérieur du protestantisme. Parce que le protestantisme, il est très rigoureux sur la morale. Un protestant, c'est quelqu'un d'honnête. Il ne ment pas, il est franc. Et pourtant, un protestant est libre. C'est un homme libre, même par rapport à la morale. Et le protestant est un homme qui n'a qu'une parole, ça c'est sûr. Et pourtant, les réformateurs ont été les premiers à lutter contre ce qu'on appelait les vœux perpétuels, c'est-à-dire ces engagements, ces promesses que prenaient les religieux et les religieuses un moment dans leur vie, souvent quand ils étaient jeunes, de rester pour toute la vie dans le monastère, et qui devaient ainsi être tenus par leurs paroles jusqu'à leur mort. Et les réformateurs ont lutté contre ces vœux en disant « Personne n'a à être engagé par une promesse qu'il a faite étant jeune. Et donc, ils ont incité les religieux et les religieuses à transgresser leurs propres paroles, à désobéir à leurs propres vœux qu'ils aient pu faire dans leur jeunesse. Tout simplement parce que ils pensaient que d'abord, un chrétien est un homme libre et que les conditions dans lesquelles on a pu prendre un vœu peuvent changer, que soi-même, on peut changer et que par conséquent, le sens qu'avait ce vœu quand on avait 18 ans est peut-être caduc quand on en a 40 et que par conséquent, on est libéré de ce vœu parce que le chrétien ne doit pas être enfermé par son passé ou par ce qu'il était avant. C'est assez paradoxal, en effet. C'est assez paradoxal, mais le christianisme est une pensée complexe. Ce n'est pas un simple moralisme. Et donc, il faut réfléchir un peu plus en profondeur sur cette question de la parole. Alors, la parole, est-ce qu'elle engage ou est-ce qu'elle n'engage pas ? Ce qui est vrai, et ça je le maintiendrai, c'est que, je vous l'ai dit, l'Évangile n'a que faire des formalismes. Je pense effectivement que dire la vérité, c'est le bien. C'est-à-dire qu'on doit dire, on ne doit pas mentir plutôt. Dire la vérité, on peut ne pas la dire, mais le mensonge est une chose effroyable. Peu importe que l'on jure ou que l'on ne jure pas. Ce qui est important, c'est que la parole soit vraie. Parce que la parole engage. Qu'on le veuille ou non, la parole engage. Parce que la parole, c'est une relation. La parole, c'est une relation à l'autre. Et dès que je parle à l'autre, ce que je dis à l'autre, eh bien, je le mets en relation avec moi. Et donc, je crée une relation avec l'autre. Et si je dis quelque chose de faux, cette relation se trouve pervertie. Et l'autre n'est plus mon prochain, c'est-à-dire que je me coupe de lui. Donc le mensonge est vraiment une chose effroyable et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, Satan est appelé le père du mensonge. Parce que le mensonge, c'est se couper de l'autre. Parfois pour se protéger, les enfants savent très bien faire ça. Je mens pour ne pas me faire punir, mais ça veut dire je mets un écran de fumée devant moi, je me coupe de l'autre, je dresse une muraille impénétrable entre l'autre et moi. Et ça, c'est tout le contraire de l'amour. L'amour, c'est la relation transparente avec l'autre. L'amour, c'est avoir le courage de se dénuder devant l'autre et de dire « je te dis ce que je pense, je me montre comme je suis et je t'accepte comme tu es ». C'est-à-dire, l'amour, c'est d'être dans une relation de vérité avec l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Et donc avoir une parole vraie avec l'autre est certainement une des choses les plus essentielles de l'Évangile, parce que c'est respecter l'autre, c'est l'accueillir, c'est ne pas chercher à le tromper. Donc notre parole nous engage, et on ne peut pas se dédire quand on a dit quelque chose à quelqu'un, même si ça nous arrange ensuite de faire le contraire, on ne peut pas se dédire, parce que même si on y avait avantage personnellement, une parole n'engage pas que soi, elle engage aussi celui à qui on l'a donnée. Et celui à qui on l'a donnée est quelqu'un d'important. Et ainsi, ce qui engage, ce n'est finalement pas tellement la parole, mais c'est la responsabilité. Quand je donne ma parole, je deviens responsable de la personne à qui j'ai parlé. C'est d'ailleurs cela l'éthique des réformateurs. Ce n'est pas une éthique de la parole, comme si l'on disait une promesse, c'est sacré, un vœu, c'est sacré. Pour les réformateurs, ce qui engage, c'est la responsabilité vis-à-vis de l'autre. Ce qui engage, ce n'est pas la parole que l'on donne, mais ce qui engage, c'est celui qui a reçu cette parole, qui m'engage parce qu'il l'a reçue. Et ainsi, si les réformateurs ont lutté contre les vœux perpétuels des religieux et des religieuses, ils n'en sont pas venus à dire que, par exemple, les promesses de mariage ne valaient rien et qu'on peut toujours promettre à quelqu'un de l'aimer pour toute la vie. Le lendemain, on dit « je dis ça pour rire et je change d'avis ». Une promesse de mariage est un engagement pour la vie, parce que dans une promesse de mariage, j'engage quelqu'un d'autre. Et par ce mot, je suis engagé par rapport à quelqu'un d'autre dont je deviens responsable. Mais dans les vœux perpétuels des religieux, personne n'est en cause. C'est un vœu que quelqu'un prend tout seul, qui ne concerne que lui. Par conséquent, il n'est responsable de personne d'autre, et il est donc totalement libre de son vœu, et il est libre d'annuler sa promesse, en quelque sorte. C'est pour cela que dans la liturgie de mariage protestante, vous écouterez, si vous assistez à un mariage protestant, normalement, le pasteur conclut la phase des engagements par ces mots: vous êtes désormais responsables l'un de l'autre. Et ainsi, celui qui s'engage dans le mariage ou dans une affaire quelconque a une responsabilité par rapport à l'autre, d'ailleurs qu'il soit passé à l'église ou non. Dès le moment qu'on rentre dans une relation avec quelqu'un, qu'on ait donné sa parole ou qu'on n'ait pas donné sa parole, qu'on ait juré ou pas juré, on est responsable de l'autre. C'est la chose la plus essentielle. Alors ainsi, on devrait dire effectivement que il n'y a pas à être engagé par une parole que l'on a donnée quand cela ne concerne que soi-même. Et pourtant, est-ce vrai? Et pourtant, c'est peut-être même plus compliqué que ça. Parce qu'il y a une histoire que un pasteur racontait il y a quelque temps et qui m'avait marqué, où il présentait comme un exemple même de la foi l'histoire d'une vieille religieuse qu'il rencontrait très âgée à 80 ans et lui dit: ma sœur, vous avez une foi formidable. Et il dit: non, en fait, je n'ai plus la foi. Mais alors lui dit-il: pourquoi restez-vous dans ce couvent? Il dit, et elle dit: je n'ai plus la foi, je ne crois plus, je crois, mais je reste là par fidélité envers la personne que j'étais à 18 ans et qui a promis de rester dans ce monastère toute sa vie. Et donc, dit-elle, justement, c'est la fidélité à celle que j'étais. Et certains ont présenté, effectivement, du coup, cette chose comme une chose admirable. Personnellement, je trouve ça effroyablement choquant, parce que je crois que l'on n'a pas à être fidèle à celui que l'on a été. En effet, la chose essentielle dans le christianisme, c'est de pouvoir être libre, justement, de changer, de pouvoir reconnaître que l'on s'est trompé, c'est de pouvoir faire une vie nouvelle, c'est de pouvoir renaître, c'est de pouvoir reconnaître ses erreurs. Et donc, on n'a pas à être bloqué et enfermé par son passé, ni par celui que l'on était. C'est choquant, l'important, c'est vrai, c'est de pouvoir s'adapter, de pouvoir vivre. Et notre passé ne doit pas nous bloquer, ni ceux qui sont morts, ni ceux qui étaient avec nous autrefois. Notre fidélité, elle n'est pas vis-à-vis de notre passé, elle est vis-à-vis de notre objectif, de notre idéal, de notre but. Et notre devoir, il n'est pas vis-à-vis de celui que nous étions, mais vis-à-vis de ceux avec qui nous sommes aujourd'hui et de ceux vers qui nous nous tournons. Notre fidélité ne doit pas être envers les morts, mais envers les vivants. Et pourtant, il est important d'avoir dans sa vie une certaine inertie, peut-être. Il est important, peut-être, effectivement, de structurer sa vie par des choix, par des sortes de règles que l'on se donne, par des décisions que l'on prend à tête reposée et auxquelles on dit vouloir se tenir. Peut-être faut-il se faire à soi-même dans sa vie des promesses, se faire à soi-même des vœux et dire: je tiendrai cela, j'ai bien réfléchi, c'est ma ligne de conduite, je veux tenir cela. Il faut mettre dans sa vie cette espèce d'inertie, je dirais, sans quoi notre existence risque de devenir une sorte de girouette et on risque de changer d'avis toutes les deux minutes au gré de nos humeurs, au gré de nos désirs momentanés. Mais la vie doit avoir une direction, une sorte de constance, une sorte de force qui traverse même les moments de doute, même les moments de découragement ou les moments d'égarement. Et donc, dire qu'il ne faudrait prendre aucun vœu, prendre aucune direction, faire aucun choix serait certainement dangereux. Nous devons structurer notre vie par des choix, par des objectifs. Et je crois que ça, c'est important. Mais pourtant, à l'inverse, je suis perplexe. Parce que si ce que je viens de dire, je le crois vrai, j'ai cherché dans l'Évangile. J'ai cherché dans l'Évangile ce que le Christ pouvait en dire. Et j'ai l'impression que dans la prédication du Christ, eh bien, il insiste sur tout le contraire. Et il insiste au contraire sur la conversion, sur le changement de vie, sur la métanoïa, c'est-à-dire changer d'état d'esprit, retournez-vous, faites demi-tour. Et effectivement, le Christ sans cesse nous appelle à naître à une vie nouvelle, à passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Et le Christ nous invite à être libres, justement, par rapport au passé. Et il dit, aujourd'hui, toi, tu peux prendre une décision qui change ta vie. Aujourd'hui, tu peux être un être nouveau. Aujourd'hui, tu peux naître à une vie nouvelle. Aujourd'hui, toutes choses peuvent être faites nouvelles. Et le passé ne compte rien, ne compte pour rien. Le passé, tu es libre par rapport au passé, libre par rapport à tes ancêtres, libre par rapport à tes traditions, libre par rapport aux pressions familiales, tu es libre par rapport à ta culture, à ton éducation, et aujourd'hui, c'est toi qui peux choisir ta propre vie à ta manière. Ça, c'est la prédication du Christ. Peut-être même, d'ailleurs, que le Christ a sous-estimé les forces de résistance au changement qui sont en nous. Parce qu'en effet, changer n'est pas facile. Et Jésus a beau dire « ne tenez pas compte du passé », dans le fond, nous restons toujours englués dans notre passé. Nous sommes un peu prisonniers de ce que nous étions. Et même quand nous n'avons pas fait de vœux, notre passé, nous le trimballons, en quelque sorte. Donc comment Jésus peut-il dire que nous pouvons faire table rase du passé sans en tenir compte ? C'est un peu curieux, je crois. Mais peut-être que le Christ, dans sa prédication, est justement un peu idéaliste, mais idéaliste dans le bon sens. C'est que même si c'est difficile de vivre à une vie nouvelle, le Christ veut dire, vous devez croire que c'est possible. Et il nous dit, vous pouvez vivre une vie nouvelle. Et aujourd'hui, vous n'avez pas à vous sentir culpabilisé et enfermé par votre passé, par votre culture, par ce que vous avez été, mais vous pouvez aujourd'hui vivre la vie que vous voulez et que vous choisissez. Je vous l'ai dit, c'est la raison pour laquelle les réformateurs s'opposaient aux vœux perpétuels. C'était, disaient-ils, au nom de ce qu'ils appelaient la liberté évangélique. La liberté évangélique. L'homme doit être libre. Et l'Évangile nous invite à être des êtres libres et à tout faire pour que nous soyons libres. Donc si c'est difficile, eh bien travaillons à notre propre libération, travaillons à notre propre liberté et peut-être même, effectivement, ayons le courage, non pas de nous engager, mais de nous libérer de ce que nous étions et peut-être même de nous libérer des choix que nous avons faits. Et l'homme doit rester libre, ne doit pas remettre ses choix à quelque instance. Il ne doit pas se cacher non plus derrière ses vœux. L'homme est libre et responsable de ses choix à tout moment, parce que l'homme doit se considérer comme ça. Mais il doit garder quand même des choses en tête. Je vous l'ai dit, c'est le sentiment de responsabilité vis-à-vis de ceux envers qui on s'était engagé. Et puis d'autre part, il faut aussi avoir dans sa vie, je crois, et c'est peut-être ça la réponse du Christ à la question que je posais sur le fait d'est-ce que la vie a un sens ou pas, c'est qu'il faut avoir dans sa vie une visée, une conviction, un idéal, une foi, parce que la foi c'est ça, la foi ça n'est pas le sentiment religieux, la foi c'est un idéal qui oriente l'existence et qui en donne la direction que nous avons choisie. Et donc nous disons, par-delà les vicissitudes, les petits désirs locaux de notre existence, il y a dans ma vie un élan qui va dans cette direction, c'est celle-là que j'ai choisie. Bien sûr, cette direction doit être globale, elle doit être aussi souple, elle doit être renégociable en quelque sorte. Mais il faut quand même dans sa vie qu'il y ait une sorte d'ossature forte qui oriente l'existence et qui la pousse dans un certain sens. Mais cela ne doit pas être des vœux sur la manière d'être, sur la manière de faire, sur des actes ou sur des pratiques. Ça, il faut essayer de trouver le bon chemin au moment voulu, il faut s'adapter. Sinon, on tombe dans l'intégrisme, sinon on tombe dans des conduites dangereuses. Et c'est le cas de cette histoire effroyable de Jephté, qui effectivement fait un vœu à l'Éternel. Si je gagne cette victoire, la première personne qui sortira de ma maison, je l'offrirai en sacrifice à Dieu. Il fait le vœu. Et voici que la première personne qui sort, c'est sa fille. Et Jephté dit, j'ai promis, j'ai fait le vœu, je dois l'obéir, y obéir, et il tue sa fille. Où est la morale de l'histoire? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de morale. La Bible n'est pas un livre de morale. Mais simplement, nous voyons là une chose effroyable et qui montre qu'un vœu, et un vœu trop précis, je dirais, et non négocié, peut devenir une machine qui écrase, une machine qui tue. C'est pourquoi le Christ a insisté aussi sur cette souplesse que l'on doit avoir. Bien sûr, il y a des lois, il y a des règles, et bien sûr, nous avons des objectifs dans notre vie. Mais l'essentiel, ce ne sont pas les lois, ce ne sont pas les règles, ce ne sont même pas nos convictions religieuses. L'essentiel, c'est l'amour du prochain. L'essentiel, c'est le bien que l'on fait et c'est la vie qu'on sauve. Et ainsi, ça me fait penser aussi à cette histoire que l'on raconte d'une religieuse, encore une, peut-être la même, qui, pendant la guerre de 40, avait caché dans son église des juifs quelque part. Et des soldats nazis arrivent et disent « Ma sœur, vous avez caché des juifs dans votre église. » Et elle dit « Ah non, 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 certainement pas, monsieur, je n'ai caché personne. » Et à ce moment-là, la personne lui dit « Ma sœur, pouvez-vous jurer sur le Saint-Sacrement que vous ne cachez personne dans votre église ?» Et la sœur dit « Oui, je le jure, sur le Saint-Sacrement, je n'ai caché personne dans mon église. » Et la question, c'est « A-t-elle bien fait ?» Eh bien, la réponse évangélique, c'est pour moi, évidemment, « Oui, elle a bien fait, parce qu'elle a sauvé une vie. » Et donc, voyez-vous que l'on jure sur la Bible, sur le Saint-Sacrement, sur la tête de qui vous voulez. S'il y a une vie à sauver, je sauve la vie. Et si je dois, moi, jurer sur la Bible un mensonge pour sauver une vie, eh bien, je le ferai. Parce qu'effectivement, l'important, ce n'est pas la règle, mais l'important, c'est l'esprit. La lettre tue et l'esprit fait vivre. L'important, c'est l'amour. L'important, c'est d'aider, d'aimer, de faire du bien. Ces histoires de règles, ces histoires de paroles qui engagent, ces histoires de promesses, ces histoires ne sont que des façons de tromper le monde. Et les règles n'ont jamais fait que de broyer les gens. Et le Christ, justement, a passé son temps à transgresser les règles pour ne garder qu'une règle absolue et idéale qui est celle de l'amour. Avec, évidemment, l'incapacité de dire exactement par où passe le chemin de l'amour. Mais ça, c'est à chacun de le chercher, c'est à chacun d'avoir le sentiment justement de la responsabilité de l'autre et de se dire comment vais-je faire pour optimiser mon chemin. Et là, il faut faire preuve d'une grande prudence parce que le chemin optimal n'est jamais simple et tout chemin dans ce monde passe par un mélange de bien et de mal. Et ce qui est bien, c'est de dire la vérité, mais en même temps, parfois, l'optimal est compliqué à trouver, et il faut savoir que parfois, le meilleur bien peut passer par une transgression. Mais là, il faut avoir donc une grande sagesse qui consiste à réfléchir, à prier, à ne pas non plus choisir tout seul, peut-être, à réfléchir avec d'autres pour essayer de trouver la position optimale qui permet d'avancer dans le meilleur sens possible de ce qui va dans le sens de la volonté de Dieu, pourrais-je dire. Mais tout cela, également dans tout cela, nous ne sommes pas seuls. Parce que l'on pourrait dire qu'il y a là une responsabilité étonnamment lourde qui est donnée à l'homme. Mais justement, ce serait intenable si l'on n'avait pas en même temps dans l'Évangile l'annonce et la proclamation d'un Dieu qui pardonne. C'est-à-dire que nous non plus, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et donc nous sommes simplement et invités à faire du mieux que nous pouvons, et ensuite nous ne sommes pas jugés sur ce que nous avons fait, mais simplement nous sommes sauvés, je dirais, par la foi que nous avons en Jésus-Christ et dans l'amour en général. On dit de temps en temps qu'on finit par ressembler dans le Dieu dans lequel on croit. Eh bien, je pense effectivement que celui qui croit dans un Dieu de jugement, dans un Dieu de règles, dans un Dieu de condamnation, sera dans sa vie quelqu'un qui juge, qui condamne et qui meurtrit. Alors que si l'on croit dans ce Dieu de l'Évangile, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu de tendresse, on peut être dans ce monde, autant que possible, un être qui agit avec tendresse, avec pardon et avec amour. Et Dieu également est un Dieu fidèle, c'est dit sans arrêt dans l'Évangile, parce qu'il est fidèle par sa parole, mais la parole de Dieu, ce ne sont pas des commandements. La parole de Dieu, à laquelle il est fidèle, c'est une seule, c'est « Je t'aime, car tu es mon enfant bien-aimé, et quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours ». Et je pense que Dieu est effectivement un Dieu fidèle, et que nous pouvons compter sur cette parole, qui est celle d'un Dieu qui nous aime, qui toujours nous reçoit, toujours nous pardonne et toujours sera là à nos côtés pour nous conseiller et pour nous remettre sur le bon chemin et nous rappeler que l'essentiel, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos échecs, ce ne sont pas nos erreurs, ce ne sont pas nos errements, mais l'essentiel, c'est cette vie nouvelle qui s'ouvre à nous parce que Dieu ouvre toujours devant nous un chemin neuf et il nous dit aujourd'hui, tu peux être un être nouveau, fermé, bloqué, verrouillé par rien qui ce soit, parce qu'aujourd'hui, en Dieu, je suis un être libre, invité simplement à aimer et à être dans ce monde un acteur de vie et d'amour. Amen.